5 jours plus tard, je pris le chemin de Tofana, mais la pluie était tombée pendant la nuit, et la légère fumée qui, depuis le quartier en cendres d'Abaddon, s'était répandue sur plusieurs kilomètres carrés, formait un nuage de vapeur froide. Toutefois, il n'y avait plus aucun foyer d'incendie. À peine avais-je fait quelques pas parmi un amas de décombres que je larmoyais, je suffoquais, et que ma route se trouva bloquée par cet agglomérat de cendres humides. Je pensais qu'il valait mieux retourner sur mes pas, traverser les champs de tombes derrière Péra, descendre la colline, et prendre le canot des Aptias au quai de Fondoukli pour retourner à bord du Speranza. Je sortis donc du quartier enfumé, dépassai la limite des ruines et des tombeaux à l'intérieur de laquelle le feu couvait encore, et je pénétrai dans un bois qui était roussi à la lisière, mais vert et fleuri comme une jungle à l'intérieur. J'en eus l'esprit rafraîchi et apaisé. N'étant pas pressé de rejoindre mon bateau, j'avançai tranquillement avec l'idée de trouver un endroit appelé les eaux douces et de passer la journée jusqu'au soir perdu dans la forêt, où, en 20 ans, la nature avait repris ses droits et déployait une sauvage exubérance. La végétation était partout d'une luxuriance folle. Vallons ombragés, ruisseaux serpentant à travers les mimosas touffus, fuchsias aux couleurs suspendues, palmiers, cyprès, jonquilles, narcisses, rhododendrons, acacias, figuiers. Par hasard, je découvris les vieux tombeaux dorés d'un cimetière, envahis par les plantes sauvages, dans un total abandon. De temps à autre, j'apercevais de petits yalis treillissés entre les branches des bocages. Je marchais avec précaution en mâchonnant une amande ou une olive. J'aurais d'ailleurs juré que ces olives n'étaient pas des fruits du pays dans une région aussi septentrionale. Il y avait cependant un grand nombre d'oliviers à l'état sauvage. Ces modifications de la nature, dont je ne peux prévoir jusqu'où elles iront, se remarquent clairement en toutes choses. Les cèdres que je rencontrais ce jour-là étaient immenses, et je n'en avais jamais vu d'une telle proportion. Je me souviens qu'une pensée me traversa l'esprit. Si une brindille ou une feuille se transformait en oiseau ou en poisson ailé et s'envolait devant mes yeux, que ferais-je ? Je regardais chaque buisson, non sans inquiétude. Au bout d'un certain temps, je pénétrai dans un bosquet très sombre, tandis que le ciel, au-dessus des arbres, crépitait de lumière. Pas une feuille ni une fleur ne remuait. J'avais l'impression de discerner le grondement du silence universel, et quand mon pied écrasait une branche, cela claquait comme un coup de revolver. Je débouchai ensuite dans une clairière, et à 10 mètres de distance, je respirais un parfum de citron et d'orange. Dans cette clairière, je découvris, à la lueur du crépuscule, 2 vieux os, 3 crânes et le bord d'un tam-tam qui dépassait d'une touffe de maïs sauvage en pleine floraison, quelques champards couleur d'or et, tout autour, un épanouissement de roses musquées. Je m'arrêtai, je ne me souviens plus pourquoi, en pensant peut-être que si je ne trouvais pas le chemin des eaux douces, il fallait que je me sorte de là. J'observais les alentours, et je me souviens qu'un insecte volant près de moi m'agaça les oreilles de son bourdonnement solitaire. Soudain, je tressaillis. Je crus voir, ou l'ai-je rêvé, une empreinte dans un lit de mousse et de violette qui semblait toute récente. Comme j'examinais avec attention cette chose impossible, je crus entendre, ou l'ai-je rêvé, un rire. Quelle démence, le rire d'une âme humaine! C'était en même temps un rire et un sanglot, et je l'entendis proche de moi pendant quelques secondes fugitives. Rire, sanglot. Au cours de mes promenades, j'avais souvent eu de telles hallucinations, comme s'il me semblait parfois entendre des rumeurs me poursuivre. Même si je les écoutais, je savais qu'elles n'existaient pas. Mais aussi brève que fut l'impression du moment, Elle était si extraordinairement réelle que mon corps en reçut un choc mortel et je tombai en arrière dans la mousse. Je demeurai là, appuyé sur la main droite, et de la main gauche, je pressai mon cœur battant. Je m'étendis un moment en essayant de retrouver mon calme. Toute mon âme était concentrée dans mes oreilles, mais je n'entendis rien que le bourdonnement sourd du vide. Il y avait cependant l'empreinte des pas, et si mes yeux et mes oreilles conspiraient contre moi, c'était plus que je n'en pouvais supporter. Je restai donc couché tranquillement dans la même position, malade et la bouche sèche, oppressé mais l'esprit en éveil, inquiet et rempli de méchanceté. J'attendrai, me dis-je. Je serai aussi rusé que les serpents, bien que je sois malade et infirme, et je ne ferai pas de bruit. Au bout d'un moment, je pris conscience que mon regard était attiré dans une certaine direction. Je compris que le fait d'avoir le sens de la direction prouvait que j'avais véritablement entendu quelque chose. Je fis des efforts désespérés pour me relever. Une fois debout, je me secouai, car si les terreurs de la mort tourmentaient mon âme, mon esprit était pénétré de son autorité royale. Je bougeai, je trouvai la force. Pas à pas, en faisant le moins de bruit possible, je me dirigeai vers un parterre de mousse qui s'étendait entre la clairière et le bosquet. Je suivis ces zigzags en direction d'un bruit qui ne pouvait être que celui d'un ruisseau. En suivant la mousse, je traversai un immense hallier dont les branches dépassaient ma tête d'un mètre environ. Furtivement, je poursuivis ma pénible progression. Je rencontrai de hautes herbes et je fus arrêté par un mur d'acacias et de poiriers épineux qui m'empêchèrent d'avancer. J'aperçus, à travers les branches, entre l'endroit où j'étais et la forêt lointaine, le miroitement d'un cours d'eau. En rampant sur les mains et les genoux, je me glissai jusqu'au bosquet d'acacia et m'y dissimulai. Étendu de tout mon long, je fouillai les alentours du regard, et, presque aussitôt, à 10 mètres devant moi, un peu sur ma droite, je vis. Curieusement, l'agitation de mon cœur, au lieu de s'intensifier et de provoquer une crise d'apoplexie mortelle, s'apaisa à cette vue. Je retrouvai mon calme. Je m'agenouillai et je la regardai, animée d'une affreuse malveillance. Elle était agenouillée, appuyée sur la paume de ses mains, au bord du ruisseau. Penchée sur l'eau, elle contemplait le reflet de son visage dans le courant avec une sorte de timidité et un air de surprise effarée. Je me relevai au bout d'un moment et continuai à l'observer, toujours avec méfiance, pendant 5 ou 6 bonnes minutes. J'imagine que ce que j'avais pris l'instant d'avant, à moitié pour un rire, à moitié pour un sanglot, était provoqué par l'étonnement de voir son visage dans l'eau, et je suis persuadé, à l'expression de son visage, que c'était la première fois qu'elle la voyait. « Je n'avais jamais rencontré sur la terre, me dis-je en l'observant, un être aussi beau. Quoique, maintenant que j'y pense à loisir, il n'y avait rien de particulièrement remarquable dans son apparence. Ses cheveux superbes, châtains et ondulés, couvraient sa nudité comme une robe, l'enveloppant jusqu'au bas des hanches. Plusieurs mèches pendaient dans l'eau. Ses yeux, d'un bleu vif, étaient dilatés par une véritable stupéfaction. Quand elle se releva avec lenteur, tandis que je la regardais attentivement, ses gestes dénotaient qu'elle était peu familiarisée avec la nature. Ses pupilles clignaient comme apeurées par l'éclat de la lumière, et j'aurais juré qu'elle voyait un arbre ou un ruisseau pour la première fois. Elle pouvait avoir 17 ou 18 ans. Il me sembla qu'elle était circassienne, tout au moins d'origine. Sa peau était légèrement dorée ou de la couleur du vieil ivoire. Debout, immobile, indécise, elle prit une boucle de ses cheveux et la porta à ses lèvres. Bien que je pusse difficilement la dévisager, quelque chose dans son regard indiquait qu'elle avait faim et ne savait que faire, bien que le bois fût plein de bonnes choses à manger. Elle laissa tomber ses cheveux et resta là, inerte et stupide, la tête penchée sur le côté, pitoyable à voir. Bien que je fusse sans pitié à son égard, il était évident qu'elle ne savait rien des choses et de leur apparence. Finalement, elle s'assit sur un banc de mousse, cueillit une rose musquée, la mit dans la paume de sa main et la contempla d'un air désespéré. Comme je l'ai dit, une minute après l'avoir vue, mon extrême surexcitation cessa et je retrouvai mon calme. La terre m'appartenait de plein droit, j'en étais sûr. Cette créature était une esclave, et sans colère ni hâte, je lui imposerai ma volonté. Pendant quelques minutes, j'examinai, en toute tranquillité d'esprit, les moyens d'exercer mon autorité souveraine. J'avais, comme d'habitude, à ma ceinture le petit poignard au manche d'argent incrusté de corail, dont la lame recourbée est effilée comme un rasoir. Alors, le plus immoral de mes ennemis me soufflait à l'oreille avec insistance « Tue ! Tue ! Et mange !» Je ne savais pas pourquoi je devais la tuer. C'est la question que je me pose toujours. Est-il vrai, tout à fait vrai, qu'il n'est pas bon pour l'homme d'être seul ? Dans le passé, il y avait une secte religieuse qui se disait socialiste. Ces gens-là devaient être dans le vrai quand ils déclaraient que l'homme atteignait son plus haut niveau en société et son plus bas dans l'isolement. La terre circonvient toute solitude et finit par en avoir raison en faisant l'homme seul, féroce, vil, matérialiste, comme le sont les sultans, les aristocrates, etc. Le ciel se trouve là où deux ou trois personnes sont réunies. Cela est peut-être vrai. Je ne sais pas et je ne m'en soucie pas. Je sais seulement qu'après avoir vécu 20 ans d'une solitude totale sur une planète, l'esprit de l'homme est plus épris de cette solitude que de la vie. Il frissonne à la brutale intrusion d'une autre créature semblable à lui-même dans le royaume furtif de son égoïsme. Ainsi, les castes solitaires, brahmines, patriciens, aristocrates, monopolistes, se contractent devant tous ceux qui tentent d'envahir leur domaine privilégié. Il peut être vrai aussi, peut-être, qu'après 20 ans d'égoïsme sauvage, un homme devienne, sans noter les étapes de l'évolution, un véritable animal, un héron incendiaire, une bête hideuse, enragée, toujours en quête d'une proie, comme ce roi de Babylone, dont les ongles ressemblaient à des serres d'oiseaux et les cheveux à des plumes d'aigle. Ses instincts féroces et tout-puissants se complaisaient dans l'ombre et le crime. Je ne sais pas, et je ne m'en soucie pas. Mais je sais bien qu'en tirant mon poignard, toutes les perversités et les ruses de l'abîme me murmuraient à l'oreille « Tue, 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 et roule-toi dans le vice !» Avec une angoisse de plus en plus forte, sensible à l'attouchement de la moindre feuille, j'avançais vers elle avec la lenteur d'un glacier, en me dissimulant sous le couvert des arbres, le poignard dans mon dos. Je progressais lentement, mais avec régularité, jusqu'au moment où je rencontrais un obstacle. Je me sentis retenu en arrière et je dus m'arrêter. Une des pointes de ma barbe s'était accrochée dans les piquants d'un figuier de barbarie. J'étais en train de démêler mes poils et j'allais y parvenir quand je remarquai pour la première fois un changement dans l'état du ciel, dont je pouvais voir un lambeau par-delà le ruisseau. Un moment auparavant, il était parfaitement clair. À présent, il se couvrait de nuages et de lointains grondements de tonnerre m'avaient fait lever les yeux. Quand, de nouveau, mon regard se porta sur la silhouette assise là-bas devant moi, la jeune fille examinait le ciel de tous côtés avec une expression démente, prouvant qu'elle n'avait jamais entendu le bruit du tonnerre, et ne comprenait pas ce que cela pouvait présager. Sans perdre un de ses gestes, je rampais vers elle, centimètre par centimètre, retenant ma respiration, prenant les plus infimes précautions. Soudain, je courus hors du fourré et je me précipitai sur elle. Elle bondit, fit quelques pas en courant et s'arrêta net à 5 mètres de moi, les narines palpitantes, m'interrogeant du regard. En un instant, je compris tout et en un instant, tout fut terminé. Bien qu'elle eût fait halte, j'avais continué ma course et j'étais sur le point de l'atteindre, le poignard levé, quand je reçus un coup violent. La flamme d'un éclair, attirée par la lame que je tenais en main, électrisa tout mon corps, et au même instant, le plus terrible coup de tonnerre qui ait jamais ébranlé un cœur humain m'étendit par terre. Le poignard sauta de mes mains et tomba aux pieds de la jeune fille. Je ne perdis pas entièrement connaissance. Pendant 3 ou 4 minutes, je demeurai assommé sous ce tumultueux déchaînement de la colère des puissances, sans pouvoir remuer. Quand enfin je pus m'asseoir, la jeune fille était à côté de moi et semblait sourire sous la pluie battante en me tendant l'arme. Je la lui repris et, d'une main tremblante, je la jetai à l'eau. Il pleuvait à torrents, il pleuvait comme il pleut dans ces parages. Pas longtemps, mais avec une telle abondance, tant que dure le déluge, que les bois dégouttaient d'une sueur profuse. J'essayai de revenir par le chemin que j'avais pris à l'aller. Je courus, non sans difficulté, à travers l'enchevêtrement des branches, sentant que j'étais poursuivi. Quand je me retrouvai dans un espace dégagé, à peu près en face des murailles de l'ouest, mais au nord de la Corne d'Or, là où il y a une étendue d'herbes bien unie entre la vallée de Cassim et Charcoy, je vis avec horreur cette protégée du ciel ou de quelqu'un. Elle marchait une 20aine de mètres derrière moi, me suivant d'un pas mécanique. Il était 3 heures de l'après-midi, j'étais trempé, fatigué et j'avais faim. Pas la moindre volute de fumée ne s'élevait des ruines de Constantinople. Je marchai jusqu'au quai de Fondoukli pour aller chercher le canot des Afias. Elle était toujours là. Ses cheveux lui tombaient dans le dos comme une corde trempée. Non seulement elle ne pouvait s'exprimer dans une langue comme la mienne, mais elle ne parlait aucune langue. Et elle n'avait jamais vu ni un bateau ni de l'eau jusqu'au moment présent, je pouvais le jurer. Elle osa monter dans le canot avec moi, s'assit en se cramponnant au plat-bord avec les ongles, et je ramai jusqu'au Speranza, mouillé à quelques encablures de là. Elle monta sur le pont derrière moi, stupéfaite, à en juger par son visage, de voir la mer, le canot, les yalis de la côte, et enfin le bateau. Pourtant, elle ne semblait pas avoir peur. Elle souriait comme un enfant, et, une fois à bord, se mit à toucher les objets qui se présentaient à sa vue, comme s'ils étaient des choses vivantes. Quand je descendis dans ma cabine pour changer de vêtements, la pluie ayant cessé, je dus lui fermer la porte au nez pour l'empêcher d'entrer. Quand je la rouvris, elle était toujours là, et me suivit jusqu'au guindeau lorsque je voulus lever l'ancre. J'avais sans doute l'intention de l'emmener à Imbros, où elle pouvait habiter l'une des maisons démolies du village, mais l'ancre était à peine à mi-course que j'arrêtai la manœuvre, et la chaîne retomba dans l'eau. Je préférais rester seul en fin de compte. « Je ne suis pas un enfant, » me dis-je. Je ne voulais pas qu'elle reste là un moment de plus. Je descendis dans le canot et, quand elle m'eut suivi, je la reconduisis à terre. Je passai devant les quais de Fondoukli et de Tofana pour contourner la Corne d'Or devant Sainte-Sophie et entrer dans l'estuaire qui n'était plus qu'une demi-lune d'eau envahie par des carcasses de bateaux carbonisés que le courant entraînait. Une fois dans la Corne, j'accostai à Galata. Quand elle m'eut suivi sur le quai, je gravis une de ces rues montantes, encombrées depuis l'incendie de gravats et de cendres, mais encore bordées de pans de murs restés debout. La nuit descendait, mais le ciel, lavé par la pluie, était clair, et dès que le soleil fut couché, il prit du côté de l'ouest des teintes de diamant rose. Je parcourus 200 mètres dans ce quartier où se mêlaient autrefois Grecs, Turcs, Albanais, Juifs, Italiens, dans une rumeur de cafés et de beuveries. Je tournai dans une rue, puis dans une autre, et soudain je relevai les pans de ma robe, pris mes jambes à mon cou et retournai en courant jusqu'au quai. Quand je me retournai, elle était encore derrière moi. J'avais à peine sauté dans le canot que je la vis au-dessus de moi sur le môle, poursuivant sa course, et elle serait tombée à l'eau si le parapet du quai ne l'en avait empêchée au moment où je poussais au large. « Je t'abandonne la Turquie, » grommelai-je, « et moi, je garde le reste du monde. » Je gagnai le large en détournant la tête pour ne pas voir ce qu'elle pouvait être en train de faire. Je dépassai la pointe de la jetée et je ramai, sur une mer forte, en direction du nord, pensant disparaître à ses yeux, quand s'éleva un cri d'enfant. C'était le premier son que je l'entendais proférer. Je tournai la tête dans cette direction. La pauvre folle avait couru jusqu'au bout du môle pour me suivre. « Espèce d'idiote !» lui criai-je par-dessus l'eau. « Pourquoi me poursuis-tu ? » Oublierai-je jamais combien ma propre voix me parut d'une fantastique étrangeté? Ma voix qui s'adressait sous la voûte céleste à une autre âme. Elle geignait comme un chien au bout du môle. Je fis demi-tour, accosté aux premières marches, et lui administrai 2 gifles retentissantes, une sur chaque joue. Comme elle se faisait toute petite, évidemment surprise, je la pris par la main et l'amenai au canot. Je ramai en direction d'Istanbul, accosté et lui fis mettre pied à terre en la tenant toujours par la main. J'espérais trouver dans le voisinage une maison qui ne serait pas complètement dévastée par l'incendie et où elle pourrait demeurer. Il n'y en avait pas une seule dans Galata et Pera était trop loin pour y aller à pied. Mais il aurait mieux valu marcher jusqu'à Pera, car nous dûmes parcourir 4 kilomètres, de la pointe du sérail aux 7 tours, en contournant les murs crénelés de la ville. Elle me suivait difficilement sur ses pieds nus, à travers un désert de matériaux carbonisés. La nuit était tombée. La lune, qui resplendissait dans le ciel, rendait la solitude des ruines 10 fois plus désolante. Mon cœur était plein d'amertume. Ce soir-là, j'eus une vision de moi-même que je préfère ne pas confier au papier. Finalement, très tard dans la nuit, je découvris un hôtel particulier dont la façade était recouverte d'un treillage vert et qui avait un toit en terrasse. Je ne l'avais pas vu tout de suite car il était dissimulé derrière les arcades d'un bazar. Ce bazar, sans doute un des plus importants de ce genre, occupait un vaste espace au centre d'Istanbul, et la maison était située à l'intérieur des arcades. C'était probablement la demeure d'un pacha ou d'un vizir, car elle en imposait par l'élégance de son style en cet endroit. Elle semblait n'avoir pas trop souffert. Mais l'incendie avait transformé la végétation qui avait envahi le bazar en une masse d'étoupes noires. J'y trouvais des milliers de cadavres calcinés, d'hommes, de mulets, de chameaux, de chevaux. Tout cela était éclairé par une lune rêveuse et lointaine, ce mystérieux clair de lune qui illumine Persépolis, Babylone et les cités mortes des Anakim. J'étais sûr de trouver dans cette maison des divans, des yatags, des coussins, de la nourriture, du vin, des sorbets, du henné, du safran, du raki, du hashish, des costumes et des centaines de friandises encore comestibles, car elle était entièrement ceinturée d'un mur. Cependant, les frondaisons qui dépassaient ce mur avaient été détruites par les flammes, et le portail était entièrement carbonisé. Je l'ouvris d'une légère poussée. Je traversai la cour et j'entrai sous un calchidique. Il faisait sombre à l'intérieur. Dès qu'elle fut entrée, je m'esquivai précipitamment, lui claquai la porte au nez et j'y mis le loquet. Je fis quelques pas en dehors de la maison et m'arrêtai dans le bazar, prêtant l'oreille, mais elle ne poussait pas le moindre cri. J'attendis 5-10 minutes, tout était tranquille. Alors je repris mon chemin mélancolique, le ventre creux, pensant partir pour Imbros cette nuit même. Mais je n'avais pas fait 20 pas que j'entendis un cri étranglé. Je me retournai et vis cette créature toute blanche étendue devant la porte sur un tas de cendres noires. Elle avait probablement sauté d'une fenêtre sur la toiture à claire-voie du calchidique qu'elle avait traversée et elle avait fait une chute de 8 mètres. Je ne crois pas qu'elle ait eu conscience du danger qu'il y avait à sauter d'une telle hauteur. Les lois de la nature étaient toutes nouvelles pour elle. Simplement, ayant trouvé une ouverture, elle m'avait suivi en toute simplicité, comme la cascade suit son cours sans se préoccuper des accidents du terrain. Je revins et la relevai par un bras, mais elle ne pouvait pas se tenir debout. Son visage grimaçait de douleur sans qu'elle se plaigne, et son pied gauche était en sang. Je la pris par son pied blessé, la traînai à travers les cendres de la cour et la lançai de toute ma force par l'encadrement de la porte en la maudissant. Je n'avais plus envie de retourner au bateau. Je frottai une allumette et j'allumai partout les girandoles, les torches, les candélabres qui jetèrent une lumière confuse parmi une multitude de piliers aux couleurs tendres, rose et azur, vert bronze et vert olive, en marbre de Portoro ou spiralé. La demeure était vaste. Je dus traverser un désert de tentures en brocart, de fines colonnades, de soieries, de broussas, avant de découvrir, derrière une portière de Smyrne, une porte donnant sur un escalier. Je gravis cet escalier et j'errai pendant un bon moment à travers les diverses salles. Les fenêtres étaient garnies de grilles dorées. Peu de meubles, mais de vastes pièces dignes d'un palais, des faïences uniques en leur genre, énormes, antiques, des armes. De splendides tapis persans étouffaient mes pas. Je traversai une longue galerie qui n'avait qu'une seule fenêtre grillagée donnant sur une cour intérieure. Cette galerie conduisait au harem qui se signalait par un luxe voyant et contenait tout un bric-à-brac baroque. De là, je descendis un petit escalier derrière une portière, et j'arrivai dans une sorte d'office pavé de marbre. Une négresse grimaçante, vêtue d'une robe indigo, y dormait de son dernier sommeil. Il y avait là une immense réserve de confitures, de conserves françaises, de sorbets, de vins, etc. Je remplis un panier de différentes provisions, revins sur mes pas et découvris au fond d'un coffre quelques-unes de ces cigarettes pâles qui enivrent, un chibouk orné de joyaux muni d'un tuyau de 2 mètres de long et du tembaki. Je descendis par un autre escalier, déposai mes provisions sous les marches d'un kiosque en marbre vert situé dans un coin de la cour et j'allai chercher un yatag sur lequel je m'étendis. C'est au pied de ce kiosque que je me restaurai et que je passai la nuit, fumant pendant des heures dans un état de grande lassitude, en contemplant au milieu de la cour un puits d'albâtre carré, taches blanches dans un foisonnement de vignes vierges, d'herbes folles, d'acacias en fleurs, de jasmin, de roses qui envahissaient le moindre recoin. Cette végétation avait de même pris d'assaut les solides arcades de style mauresque qui entouraient la cour. Sous l'une d'elles, j'avais suspendu une lanterne de soie pourpre. Je m'endormis vers 2 heures du matin. La lune, qui avait régné sur ce paysage comme un farfadet mongol, s'était couchée et l'obscurité était maintenant profonde.